possible.
Possible.
C'est parti.
Pour ce mois des fiertés, je suis très fier de recevoir le showrunner qui a adapté d'une main de maître Drag Race en France. Bienvenue, Raphaël Sioffi.
Bonjour.
Pour commencer, première question qui me brûle, c'est comment tout a commencé, Raphaël ?
Alors, tout a commencé vers... Alors, tout a commencé pour Drag Race, j'imagine, hein, pas oui. Pour moi, parce que sinon, c'était il y a très longtemps.
Plus tard, peut-être.
Mais il faudrait peut-être demander à mes parents, plutôt. Mais pour Drag Race, en l'occurrence, ça a commencé en 2017, je dirais. Donc, il y a 6 ans, si je compte bien. Où vraiment, je connaissais un peu l'émission, mais je n'étais pas encore vraiment plongé à fond dedans. Et j'ai découvert vraiment... Enfin, je suis devenu un peu addict assez tard. C'est-à-dire que ça arrivait à la saison 9. Et ça m'est apparu comme une évidence qu'il fallait qu'on le fasse en France. Et je me suis vite projeté dedans parce que ça réunissait tout ce que j'avais fait jusque-là et tout ce que j'avais envie de faire. Et donc, je me suis un peu emparé de ça et j'ai contacté très naïvement World of Wonder en disant « Je veux le faire en France, voici mes idées. » Et ça a été le point de départ.
Ils t'ont dit oui tout de suite ?
Ben, en fait, ouais. En fait, après, j'ai vraiment... j'étais vraiment un peu... j'étais un peu intense, quoi, mais... En fait, j'ai fait un dossier chez moi, et bon, je fais quelques ellipses, mais j'ai fait un dossier où je leur disais pourquoi je pensais qu'il fallait le faire en France. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucune franchise qui existait. Il n'y avait que la version US, donc la notion même de franchise était inédite. Il n'y avait même pas Drag Race Canada, donc je ne savais même pas dans quoi... aujourd'hui, ça a l'air évident parce qu'il y a 15 versions, je crois. Mais à l'époque, voilà, c'était assez inédit. Et vraiment, très vite, je l'ai projeté dans quelque chose de très français. Et je me suis dit, ah mais... Parce qu'en fait, je me rendais compte que toutes les queens et beaucoup de personnes queer que je connais parlent vachement anglais, tous nos références en anglais. On connaît hyper bien l'histoire américaine de nos histoires LGBTQIA+, mais pas trop les françaises. Donc je me suis dit, ça serait bien de prendre un petit peu ce que les Américains ont créé, mais de le faire pour nous raconter nous et nous montrer nous.
Oui, avec un biais assez historique, du coup, enfin, au moins avec des références historiques.
Moi, je me suis dit, mais moi, c'est lip-sync, j'ai envie de les voir sur Laurie, j'ai envie de les voir sur Mylène, évidemment. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je les ai contactés en leur disant, voilà, nous, on prendra votre savoir-faire, mais moi, j'aimerais le faire donc vraiment en français, avec tous les rendez-vous cultes en français, avec des challenges en français, des guests. On a la chance d'avoir des guests français. Je leur parlais déjà de Jean-Paul Gaultier, de plein d'artistes comme ça, de Redcar, tout ça. Donc du coup, ils étaient hyper emballés très vite. Et donc ils m'ont dit oui, sachant qu'ils disaient non depuis des années. Mais ils m'ont dit oui très très vite. Et à partir de là, j'ai dû trouver une vraie grosse boîte de prod pour le faire, parce que moi, je ne sais pas fabriquer une émission. Donc j'ai trouvé un coproducteur, et on coproduit donc cette émission avec Endemol.
Et comment tu as fait du coup après pour passer de l'idée, tu as l'accord de World of Wonders, et ensuite de trouver justement ce producteur, de chercher des diffuseurs?
Ah, mais en fait, je suis coproducteur du show, donc on la fabrique vraiment ensemble, et avec Nicolas Missoff qui est mon coproducteur chez Endemol. On est vraiment les deux papas en gros de... C'est une famille homoparentale, Drag Race France, avec deux papas et beaucoup d'enfants drag queen. Voilà. Mais du coup, j'avais commencé avec une autre boîte de prod. Et en fait, on ne s'est pas vraiment rencontrés, je dirais. Et au bout d'un an, il y a eu plein de moments où vraiment j'étais plein d'espoir et plein de moments où je me disais, oh, en fait, on ne va jamais y arriver. Mais du coup, on m'a mis en contact avec Nicolas en me disant, ah, j'ai un bon feeling. Je pense que ça pourrait vraiment le faire, et que lui particulièrement, et via Endemol qui a... des petites équipes, en fait, ça a l'air très industriel comme ça, mais c'est très artisanal, hein. Derrière des gros noms, il y a souvent des équipes de 5 personnes.
D'accord.
Quoi. Et donc, je les ai rencontrés, on s'est complètement compris sur pourquoi on voulait faire ça, comment on voulait le faire. Évidemment, intégrer le fait que je ne serais pas juste, entre guillemets, auteur dessus, mais que je serais un des leads, parce qu'on ne va pas attendre que des gens que ça ne concerne pas comprennent.
C'est bien ça.
Ça, ils l'ont compris, eux. Après, ça a été un peu un combat de tous les jours sur un projet comme Drag Race. Mais voilà, on a vraiment fait équipe dès le jour 1. Et après, voilà, on a parlé à plein de diffuseurs jusqu'à ce qu'il y ait cette conversation quand même super agréable avec France Télévisions, qui avait vraiment compris de quoi il s'agissait. J'étais très étonné, hein, pour être honnête. J'avais très envie que ce soit le service public, personnellement, parce que je pense que c'est génial que ce soit accessible et gratuit, ce qui est, je trouve, un des fondamentaux, d'ailleurs, de la culture queer. Que des choses
puis c'est le service public, en fait.
Non, mais je pense que ça excite tout le monde, cette info. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est hyper rare dans l'univers de Drag Race. À part l'Angleterre, c'est une émission qui est sur des chaînes payantes ou de la VOD payante, et qui est... Les gens l'oublient parce qu'après, ça a été diffusé sur Netflix, et qu'on a l'impression que Netflix, c'est gratuit parce que tout le monde l'a, mais non, c'est un abonnement qui est payant. Et voilà, c'était un événement que ce soit gratuit. Donc j'étais très content que France Télévisions s'empare du sujet. Et surtout, j'avais enfin l'impression de parler avec des gens qui parlaient la même langue que nous.
Ouais, c'était bien.
Et qui voulaient le faire pour les bonnes raisons et qui me parlaient directement dès le J1 de diversité, de visibilité. Et j'étais là genre, oh, attends, mais ça existe. Voilà, ouais, il y a des gens comme ça.
Et c'était France TV slash ou pas du tout? C'était quand même France Télévisions? Parce que France TV slash, ils ont justement cette politique un peu inclusive.
C'est des supports différents, mais au sein d'une même maison. Donc, je ne saurais pas dire, je ne me souviens plus si c'était via slash ou TV à la base. Mais on a vite parlé tous et tout ensemble. Ça a été assez rapide. Mais c'est vrai que slash, en tout cas, quand j'ai parlé avec les équipes de slash, je parlais avec des gens comme nous. Je parlais avec des gens vraiment qui ont les codes, mais c'est même pas que des codes qu'ils ont appris pour le boulot. Tu sens qu'ils font ce boulot justement parce que c'est il y a pas de différence entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont. J'ai l'impression. Donc c'est vraiment des personnes. J'ai rencontré des personnes animées des mêmes choses que moi.
D'accord.
Et que toi, par exemple, tu vois, genre ce qu'on fait. Et au sein de grandes maisons.
Et du coup, en étant fan de la série américaine, est-ce que tu as, sur cette première saison, quand tu t'es mis à écrire la première saison, tu avais envie de mettre beaucoup de choses, trop de choses? Est-ce que tu t'es censuré? Comment s'est fait le travail d'écriture de cette saison 1?
Alors moi, c'est la partie qui m'excitait le plus, pour être honnête, parce que c'est quand même mon cœur de métier d'écrire. Et c'est vrai que... Alors, on m'a beaucoup dit, oh là là, j'espère que ça va être bien. On m'a beaucoup informé que ça allait être de la merde aussi, la version française.
C'est vrai ?
Ouais, on m'a beaucoup dit que ça allait être nul.
C'est très français de se dire qu'un truc bien va être... Enfin...
Bah, c'est vrai que parfois, je me dis qu'on a un petit problème de public, parfois, parce que c'est vrai qu'on a plein de compétences en France, on a plein de talents, mais le risque, il vient aussi de la façon dont le public le reçoit. Et c'est vrai que parfois, avant de faire un truc... que tu reçoives... Enfin, c'est bizarre, parce que les gens étaient à la fois hyper contents, mais en même temps très frileux. Mais je le comprends aussi, je le voyais avec bienveillance, parce que pour être honnête, c'est quelque chose que je pensais aussi, et c'est ça qui m'a donné envie de le faire. Donc, je comprenais toutes les remarques que les gens faisaient, toutes les craintes qu'ils avaient. Mais moi, c'est ce qui m'excitait le plus. Mmh. C'est-à-dire que quand on me disait, mais attends, mais ça, c'est intraduisible, ça, c'est inadaptable, et tout, j'étais genre, mais parce qu'en fait, si. Enfin, c'est... C'est pas de la traduction qu'on a fait, c'est de l'adaptation.
Ah bah totalement.
Et par exemple, moi je me rappelle, enfin je pense que vraiment le mot le plus apte à résumer tout ça, c'est légendaire.
Et oui.
C'est-à-dire que quand j'ai appelé Nikki, on s'est fait vraiment des sessions de Zoom, de lecture et tout. Et quand je lui ai proposé, au début elle fait elle me fait ah je suis pas sûre parce que c'est très loin. Et je lui disais mais ce qui compte c'est pas le mot, c'est la mélodie, c'est l'intensité du truc. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me fait « I'm obsessed ». Elle me dit « Mais c'est sûr que c'est ça, je suis obsédé ». Et comme je dis oui, je diverge, je me suis dit « En fait, il faut reprendre le ton, pas les mots. Il faut reprendre qu'on comprenne qu'on est dans le même univers. » Et au final, si tu dézoomes de Drag Race, la communauté queer, elle a quand même des codes similaires à peu près partout dans le monde.
Ouais, ouais. Et du coup, la rencontre avec Nikki, c'était une évidence?
Mais absolument. En fait, moi, quand elle a fait sa saison, j'étais déjà sur le projet. Du coup,
d'accord.
Et c'est vrai que j'avais pas... Enfin, déjà sur le projet. Ouais. Comme je te dis, depuis 2017. Oui, donc, et c'est vrai que j'avais pas vraiment d'incarnation. On a beaucoup de drag queens très talentueuses en France. Mais on n'avait pas une évidence où tu dis à n'importe qui dans la rue une drag queen française et tout le monde te dit le même nom, tu vois, comme RuPaul ou d'autres personnes à l'étranger. Et quand je l'ai vue dans sa saison, mais vraiment, j'ai vu... en fait, que c'était elle. C'est-à-dire que c'était évident. Dans sa façon de s'exprimer, j'ai vu son cerveau, j'ai vu son regard intelligent, j'ai vu son second degré. Et vraiment, ça a été une évidence.
Une bienveillance aussi, je trouve.
Tout. Elle a l'intelligence du cœur, l'intelligence du cerveau, l'intelligence humaine, tout. Elle a tout, en fait. Elle a la culture, c'est une personne qui est engagée, qui est pro. Et ce que je dis souvent sur Nikki, c'est que souvent, les personnes françaises qui vont aux États-Unis pour réussir, souvent, ils finissent par avoir les défauts des Français et des Américains. Elle a les qualités des Français et les qualités des Américains. C'est une personne qui est ultra pro. Je pense que c'est une des personnes les plus pro que je connaisse. Mais en même temps, avec les vraies qualités françaises, je dirais, cette humanité, cette espèce de recul aussi, pas d'être un robot professionnel non plus. Et de toute façon, tout le monde l'a vu dans la saison. Tout le monde adore Nikki, je pense. Tout le monde a justement d'abord fait un petit side-eye en disant « Nikki, non, on ne la connaît pas trop. » Et après, de se dire « Ah ouais, non, mais mother tu vois, genre, c'est vraiment la maman du drag en France maintenant.
Ouais, totalement. Moi, j'étais tellement triste quand elle a quitté sa saison. Mais c'était déchirant. Et c'est vrai que quand j'ai appris qu'elle serait la host de Drag Race en France, j'étais là, super choix. Enfin, il n'y a pas meilleur choix.
Mais en plus, non seulement c'était une intuition très forte. Après, il y a l'exercice de la réalité quand même. Parfois, il y a une intuition et...
Oui, il faut que ça marche en présentation.
Et en vrai, ça a été encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc... En fait, il y a un vrai match entre nous. C'est qu'on fait... on a choisi ces villas, ces projets-là, pour les mêmes raisons. Ouais. Du coup, il y a un vrai... Moi, c'est une muse pour moi. J'ai eu la chance de bosser avec des gens comme ça qui ont amplifié mon travail, que ce soit Catherine Liane, Jean-Paul Gaultier, Charlotte Lebon. Enfin, j'ai eu des rencontres dans ma vie qui m'ont permis... Aujourd'hui, si on me considère bon auteur, enfin, en tout cas, dans mon travail, c'est grâce aux personnes qui l'ont porté. Et c'est pas que mon travail. Et Nikki, elle a vraiment porté
ma vision. C'est une rencontre à chaque fois, en fait.
Ah, mais c'est ma work wife, comme on dit à nos maris. Voilà. Non, mais elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale.
Mais ça se, enfin, puis ça se sent qu'elle est à l'aise. Moi, je l'ai vue aussi sur scène deux fois. Et elle incarne totalement un travail qui n'est pas évident. Hein.
En fait, ce qui la positionne en superstar, c'est qu'elle ne se positionne pas au-dessus des gens. Ouais. C'est qu'elle s'empare de cette aura, on va dire, de star et de cette position un peu. Mais elle a la même vie que tout le monde. Au final, elle est dans le même espace-temps. Elle n'est pas dans une espèce de tour d'ivoire, tour d'argent. Je ne sais jamais la matière pour cette expression.
Ouais, moi, je suis toujours nul en expression.
Donc, dans une espèce de tour de marbre rose, tu vois, on va adapter. Non, mais elle est... c'est une personne normale dans une vie peu normale, on va dire.
Et alors, est-ce que tu as des souvenirs de ce tournage de la saison 1 ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a extrêmement marqué pendant le tournage ?
Alors oui, j'ai des souvenirs parce que c'était il y a un an quand même. Ouais. Je suis pas encore sénile à ce point. Tiens. Non, mais est-ce que c'est marrant, cela dit, parce que ça passe tellement. C'est un peu ce que les artistes peuvent raconter sur scène quand parfois ils ont des espèces de blackout après. C'est vrai qu'il y a eu un truc, une espèce d'espace-temps sur le tournage, une espèce de magie qui a opéré. J'ai l'impression que c'était Disneyland, mais la nuit, tu sais, quand c'est fermé. Ce qui m'a vraiment marqué, bon, déjà, c'était que la magie opérait. C'était de vraiment voir la vision que j'en avais prendre vie. C'était ça a été long, mais c'était exactement ce que je rêvais que ce soit et ce pourquoi on avait travaillé, toutes et tous. Et surtout, j'ai vraiment le souvenir marquant des Queens, de m'être pris une immense claque par leur générosité et leur capacité de travail. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment joué le jeu à mort. Et je les ai vues m'étonner, s'étonner elles-mêmes. En fait, j'ai vu quelque chose devenir mieux que ce qu'on voulait.
Oui, encore. Puis on a l'impression, on a le sentiment en regardant le show, que ça a fait communauté en fait, qu'elles étaient très bienveillantes les unes les autres, que ça avait vraiment fait un groupe très rapidement en fait.
Bah après, on a aussi, attention, ça tient principalement à elles, mais on a travaillé en ce sens. C'est-à-dire que Nico et moi, on a été très très vite d'accord sur le fait que, en fait, cette émission, et tu le vois maintenant beaucoup avec les franchises différentes, il y a un curseur que tu peux déplacer dans deux extrêmes. Cette émission, elle peut être soit un talent show, soit une émission de télé-réalité.
Ouais.
Et on le voit.
UK, souvent, elle se bouffe le nez.
Bah, ça dépend beaucoup de casting et de comment tu vas provoquer ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, nous, je sais que quand on nous a raconté un peu en off qu'il y avait des drag queens qui ne pouvaient pas se voir, bah, on ne les a pas castés ensemble. Et ça, c'est un travail qui se fait en amont. C'est-à-dire que tu ne fais pas...
Des castings, en fait, ouais, c'est ça.
Tu ne crées pas un environnement un peu putassier où tu dis... Évidemment qu'il y aura toujours du conflit, mais nous, le conflit qu'il y a dans Drag Race, c'est un conflit qui est organique. C'est pas un conflit qu'on a prévu ou on savait qu'il risquait d'arriver. Nous, on essaie de créer un terrain qui soit de la bienveillance, parce que moi, je pense que quand tu es dans un environnement où tu te sens bien, qui est une safe place, que ce soit dans Drag Race ou ailleurs, tu vois, moi, j'ai d'ailleurs beaucoup interviewé des gens aussi, je les ai jamais agressés. J'ai toujours été hyper bienveillant et je pense que tu obtiens beaucoup plus des gens dans ces espaces-là que quand tu vas les piquer et les déstabiliser, tu vois.
Et puis le message derrière aussi.
Je trouve que moi, je suis hyper fier que ce soit la touche française. En fait, Nikkei nous le raconte vachement qu'à l'étranger, les gens qui racontent Drag Race, ils disent « Ah, yeah, fashion et bienveillance, quoi. » Et je me dis « Ça me va. » Ça me va comme signature, tu vois. Et c'est vrai qu'on essaie de garder ça comme signature française.
Fashion et bienveillance, c'est aussi politique. C'est cette saison 1, alors évidemment, j'ai hâte de voir la 2, on ne m'a rien montré. mais c'est quand même très politique cette saison 1, visibilité trans, on parle du HIV, du traitement, du rejet des parents, de LGBT-phobie. C'était ta volonté dès le départ ?
Complètement. Moi, je pense que tout ce que je fais aujourd'hui n'est lié qu'à ça. C'est-à-dire que moi, je suis avant tout, je dirais, auteur militant même. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai fait, que ce soit donc des projets avec Jean-Paul Gaultier ou même des sketchs de Catherine Liane, c'était toujours animé d'un propos. Alors, c'est pas une histoire d'être un télo, mais c'est ce qui me donne envie d'écrire. C'est-à-dire qu'on m'a proposé souvent d'écrire des sketchs ou des stand-up juste pour la vanne. Je pense que je suis même pas très très bon pour ça, pour être honnête. Moi, j'aime bien transformer des choses qui ont l'air compliquées ou qui ont l'air de diviser. dans quelque chose qui rassemble et qui a l'air très, très simple. Donc moi, j'ai directement vu ça dans Drag Race. Et c'était... en fait, c'est même pas... c'était le moteur et côté Endemol et côté France Télévisions aussi. C'est qu'on avait ce désir de visibilité, de conversation, de diversité et surtout de raconter. On me dit souvent, c'est génial l'impact que ça a eu d'avoir vu ces prises de parole, mais elles sont assez inédites à la télévision aussi, pour être honnête, parce qu'à chaque fois qu'on voit des conversations à la télé, déjà qu'ils appellent des débats, ça me rend ouf, parce que moi j'appelle ça des combats, en fait. Quand on met des personnes qui ont des choses à gagner ou perdre face à des gens qui n'ont rien à gagner ou perdre, ça ne s'appelle pas des débats, ça s'appelle des combats, en fait. Et j'en ai marre de voir des prise de parole de nos communautés dans des espaces où on nous met toujours quelqu'un à charge. On nous laisse... En fait, ça nous met dans une position de justification et pas de se raconter. Et Drag Race, je trouve, et si on doit parler d'un autre curseur, vient déplacer ce curseur-là en laissant des personnes prendre la parole, en fait, et parler de qui elles sont, en s'adressant aux personnes comme elles, tu vois, et sans avoir quelque chose qui vient parasiter ce propos. Et je pense que ça, ça fait énormément de bien et ça vient un petit peu, j'espère, redéfinir... les codes de ces prises de parole à la télé. Et mais c'est comme ça, saison 2, évidemment, ça, en fait, ça pourrait, pour moi, si ce n'était pas comme ça à chaque saison, c'est qu'on a loupé notre boulot. S'il n'y a pas, dans chaque saison, de la visibilité, des prises de parole qui sont le reflet de ce qui se passe dans la société et des combats de personnes qui sont dans des minorités, on a mal fait notre travail.
Mais tu parlais de curseur, et moi, c'est la différence que je fais entre débat et conversation. C'est que pour moi, la saison 1... ça amène de la conversation. La conversation, c'est pouvoir discuter avec l'autre et pas débattre dans une sorte de combat de qui aura le dernier mot. Je trouve que sur cette saison 1, quand Lolita Banana arrive avec indétectable égale intransmissible, qui explique sur le service public ce que ça veut dire à un public qui est, j'imagine, aussi hétéro et totalement concerné, mais alors qui n'a plus cette... cette éducation sur le HIV, j'ai trouvé ça, mais j'avais des frissons. J'étais là, mais c'est, tu vois, je t'en parle, j'ai encore beaucoup d'émotions. Mais
même notre cercle à nous, tu vois, genre moi, mon cercle un de potes qui sont des alliés éduqués m'ont dit, ah bon ? Mais c'était pas au courant. Mais à la limite, c'est même pas que je peux pas les blâmer, elle et eux, tu vois, c'est juste que clairement, il y a un truc médiatiquement qui fait pas son taf là-dessus. Tu sais, j'aime bien dire cette phrase un peu pour rigoler, mais je la pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens avec Drag Race qui ont découvert qu'ils n'étaient pas homophobes et qui ont découvert qu'ils n'étaient pas transphobes. Je pense qu'il y a des gens qui ont leur titille tellement l'homophobie qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne le sont pas. Et en fait, d'avoir juste ces prises de parole qui sont assez magistrales parce qu'il n'y a personne en face pour les contredire, il n'y a pas de contre-argument auquel se lier, il y a juste une info pure, que le public prend. En fait, ils se disent « Ah ben ouais !» Et en fait... ils sont juste dans l'éducation et je pense que l'être humain a envie de s'élever et de s'éduquer. Donc et on l'a vu, moi je l'ai vu surtout dans la tournée. De toute façon, il n'y a pas un jour depuis la diffusion de l'épisode 1 où on n'a pas des dizaines de messages, que ce soit les Queen, Nikki, nous, moi. On reçoit des messages tous les jours de remerciements ou en tout cas de témoignages de personnes qui nous disent oh, « ça nous a permis de parler ». En fait, ça donne des éléments de langage aux personnes que ça concerne et aux personnes que ça ne concerne pas. Et c'est ça qui est assez génial.
Mais c'est ouf, hein. C'est en ça que c'est réussi.
Bah, pour moi, c'est la vocation numéro un, elle est ex aequo, au moins, de cette émission. S'il n'y avait pas ça, je ne sais pas si moi, en tout cas, ça m'intéresserait, tu vois, de le faire.
Et alors, justement, par rapport à ces témoignages, est-ce que tu as été surpris du succès à partir de la diffusion? Parce que, de mémoire, ça devait être... Le premier épisode était diffusé sur France Télévisions, sur France 2, et ensuite, ça devait être diffusé uniquement sur la plateforme. Et finalement, ça a eu un tel succès qu'ils l'ont diffusé sur la chaîne grand public. Ce qui est plutôt un gage de courage, je trouve, de la part d'un diffuseur, d'y aller à fond. Est-ce que ça t'a surpris, ce succès?
En fait, alors, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, en fait.
D'accord.
Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que à la base, c'est une commande pour la VOD. C'est une commande pour le digital.
D'accord.
C'est Drag Race France était destinée, en tout cas, au digital. Comme c'est à peu près son écosystème partout dans le monde. C'est-à-dire que c'est une émission qui est en VOD partout. Netflix, c'est de la VOD. C'est un programme digital, de base. Donc, on n'a rien inventé en faisant un programme digital. En revanche, là où le travail de Nico, donc Nicolas Missoff, mon coproducteur, et moi, intervient, c'est qu'on a produit ça comme le plus grand divertissement de tous les temps. C'est qu'on s'est dit, en fait, on a fédéré autour de nous, je pense, les personnes qui étaient les meilleures dans leur domaine, qui fabriquent de la télé depuis des décennies et qui sont vraiment les Avengers de la télévision. Et aussi, ce programme est assez magnétique parce que, justement, il y a tellement de sens dedans qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas toujours dans leur travail, qui nous ont contactés en disant ah, « Mais attendez, vous faites ça, mais moi, je veux en être. » Donc, très rapidement, on a eu une équipe capable de fabriquer un petit bijou. Et je pense que France Télévisions l'a remarqué très très vite et très rapidement s'est dit, bah attends, il faut absolument... Puis même en se rendant compte de ce que c'est vraiment la version française, en voyant sa qualité, en voyant les conversations, a eu très rapidement envie, mais pendant le tournage, de le diffuser à la télé.
D'accord.
Sauf que les grilles télé, c'est des choses qui sont programmées hyper longtemps à l'avance. Donc ils ont fait leur max à ce moment-là, et en essayant de donner la meilleure vie possible à ce moment-là, dans un contexte qui n'était pas forcément prévu. Mais dès l'épisode 1 de la saison 1, ils nous ont parlé de la saison 2, en disant, mais il faudra absolument qu'on bosse... pour que ce soit mieux vu. Et moi, cette deuxième partie de soirée, je trouve que c'est l'écrin parfait pour Drag Race. Je pense que c'est ça. Même pas prime time, parce que justement, je sais que tout le monde, il y a une espèce de graal, de fantasme autour du prime time, comme une espèce de consécration populaire et tout. Mais je pense que ce qui fait aussi le sang et la qualité de Drag Race, c'est son identité, sa personnalité, son irrévérence, qui est nécessaire aussi. Et je pense que du coup, la deuxième partie de soirée est le meilleur moment pour nous.
Et du coup, ce succès, ça t'a qu'est-ce que ça t'a fait ?
En fait, déjà, ça m'a rendu heureux. Je pense que c'est le niveau 1. J'étais hyper... J'étais vraiment heureux. Parce que je pense qu'avant l'auteur, avant le producteur, il y aura toujours le PD. Tu vois, le PD militant. Et de voir nos communautés rassemblées, de voir des personnes parler positivement de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on fait. Parce qu'on est quand même une putain de communauté, quand même. On fait des choses assez magnifiques et on n'en parle pas assez. Et de montrer ça à la face de la France entière et qu'elle s'en empare et l'accueille, j'étais super heureux. Et je crois que les viewing parties, ça a été un niveau de plus. De voir toutes nos communautés et les alliés se réunir pour créer notre mondial pendant tout l'été, ça m'a... Je pense que sincèrement, ça m'a ému presque aux larmes, quoi.
Tu peux être fier parce que, enfin, comme tu disais tout à l'heure, enfin, on parle de nous. Enfin, on parle nous-mêmes de nous en bien, en fait.
Bah, ou en tout, ouais, et sans contrepartie, et en tout cas, ça vient compléter. Il faut pas après l'idée, c'est pas d'être dans une espèce de fable ultra positive qui raconte que les bons côtés, mais c'est une partie, je trouve, qui manque, et que ce soit nous qui la racontions, c'est primordial. Moi, j'ai toujours dit avec Drag Race, par exemple, c'est vrai que quand on me pose des questions sur le drag, j'ai tendance à pas répondre parce que je suis pas drag queen, je peux en parler en une minute, mais je vais pas expliquer ce qu'est le drag. Moi, notre boulot à Nico et moi, et à France Télévisions et en Démol, c'est de fabriquer un micro qu'on tend. Et pas de prendre le micro à la place des gens et penser qu'on est légitime pour parler du drag. Et voilà. Donc là, c'est vraiment ça qui me rend fier, quoi.
Et du coup, alors, juste après la diffusion, vient la tournée. C'est toi qui l'as écrit.
Ouais.
Et à quel moment... C'était une idée dès le départ ou t'as enchaîné direct ?
Mais c'était sûr. Moi, c'est ma vraie vie. C'est la vraie vie des queens. C'est mon vrai boulot, c'est de faire des shows. Le vrai boulot des queens, c'est d'être sur scène. C'est pas qu'on se retrouve dans des faux murs, quoi, à faire des épreuves complètement folles. C'est génial de le faire, mais c'est pas notre vraie compétence. Et pour moi-même, je me sentais redevable aux queens d'avoir fait l'effort d'être venu chez nous. Et je me suis dit, il faut que nous, on leur rende, en leur offrant la meilleure des scènes pour qu'elles puissent montrer ce qu'elles font sans Nikki qui dit, tu as une heure pour créer une tenue. Voilà. Et qu'elles puissent vraiment montrer dans un espace dédié ce qu'elles sont vraiment et ce qu'elles font vraiment. Chacune à leur sauce, et aussi il y avait quelque chose de militant dans le sens où on est une version où il n'y a pas de cash prize. Bon, et même s'il y en avait un à la fin, ça serait de l'argent pour une queen et pas pour le reste du casting, donc il y aurait quand même 90% des queens qui n'auraient pas cet argent-là. Donc moi, je l'ai aussi vu comme une opportunité de professionnaliser et de rendre des queens intermittentes aussi, et de s'assurer une sécurité pendant un an aussi, après cette émission, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, tout en faisant leur travail. Donc c'était un tout qui fait que dès le début, je suis allé voir mes amis à la direction d'Endemol en disant « on va faire une tournée ». C'était au début un tout petit peu débilitatif, et moi j'étais très, très naïf et souriant en disant « on va faire une tournée ». Voilà. Et on a construit ça vraiment dans un temps, on va dire, record. Et ce qui est important, surtout pour la tournée comme pour l'émission, c'était de... Vraiment, une phrase que j'ai souvent répétée, c'est « on ne va pas déplacer uniquement l'esthétique des drag queens, on va déplacer... » tout ce qui constitue l'art du drag, et notamment son côté militant. Et je pense qu'on l'a retrouvé et dans l'émission et dans le show. Moi, je voulais que ça plaise à des gens qui vont voir des shows drag à 1h du mat et qu'on se dise « Ah, en fait, on y est, quoi. » Et je crois que c'est ce qui s'est passé.
Oui, puis ça permettait aussi au public de voir la Kaina qui est partie vite, Lola la Diva.
Mais Lova, c'est...
Mais
Les deux, hein, de toute façon, ouais. Je les aime toutes, mais c'est vrai que Lova, par exemple, Kayal a une maladie.
Ouais.
Elle savait même pas si elle allait pouvoir être debout. C'était très compliqué pour elle au début de se projeter dans ça. Mais je lui dis, tu sais quoi? Tu seras celle qui fera danser les gens. Okay mais... et les gens l'ont redécouverte comme ils ont redécouvert la Kaina. Et pour moi, justement, ça vient. C'est pour ça que j'ai pas trop voulu non plus dans le show reprendre, trop citer l'émission. Parce que.
Ouais.
On parlait d'ordre de classement, de reprendre des moments et tout. Pour moi, c'est deux histoires différentes. L'émission, elle existe et elles sont contorsionnées pour rentrer dedans. Pour moi, le show vient se contorsionner pour ressembler aux Queens. Donc, c'est deux aventures différentes et qui se complètent.
Et puis, gros succès de la tournée.
Ça m'a un peu plus surpris, pour être honnête. Enfin, je savais qu'on allait avoir... on avait prévu 9 dates au début. Moi, je n'étais pas inquiet pour ces 9 dates. Parce qu'on est quand même sur des shows US qui remplissent des Zéniths, voire des Bercy. Donc, je me disais, il y a un public, quoi. Mais qu'on triple les dates, ça m'a beaucoup... Enfin, si on m'avait dit, il y a un an, qu'on ferait 13 casinos... Je suis assez ému quand je te le dis, tu vois, mais qu'on ferait 13 casinos de Paris avec le show le plus queer possible, tu vois, à ce moment-là, je sais pas si j'aurais cru là, pour le coup, tu
bah
vois.
Ouais.
Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu surtout les publics se diversifier. Alors, je suis très content que ça s'élargisse. On fait ça aussi pour ça, mais on transforme pas le contenu pour que ça plaise au plus grand nombre. On le produit de façon à ce que le plus grand nombre puisse ne pas se sentir, ouais. En tout cas, pas invité. Mais c'est quand même à la base un show queer pour les personnes queer, par des personnes queer. Mais on le fait assez intelligemment pour que ça plaise à tout le monde. Quand on produit une émission, quand ils font téléfoot, ils se disent pas comment on peut plaire aux gens qui font du golf, quoi. Mais ils font un truc qui est assez bien pour que si tu n'es pas le cercle 1, tu puisses te sentir invité. Et on a vu sur la tournée les publics vraiment évoluer au fil des dates. Et j'ai vu plein de familles, j'ai vu plein de mamies. Je crois qu'un des trucs qui m'a le plus ému, c'est de voir des couples LGBTQIA+, seniors. Ça peut me faire pleurer, je pense. Enfin, c'est assez beau ce qui se passe quand même. Hein.
Moi, je l'ai vu 2 fois, donc du coup, à Paris. Et j'étais très surpris aussi du public. Je m'attendais à un public quasi à 100% LGBT en me disant, mais de toute façon, les hétéros vont pas se déplacer. Et finalement, j'étais là, y a des familles, y a des enfants. Les gens mais qui ont totalement adhéré en fait comme quoi ils peuvent s'intéresser à nos communautés et comme tu dis vous êtes pas du tout censurés quoi pour eux.
Mais je pense que bon le côté communauté est ultra important, il est fondateur dans Drag Race, mais je pense qu'on oublie assez facilement la dimension universelle de Drag Race. En fait, dans Drag Race, je le répète assez souvent, c'est qu'il y a c'est une explosion des codes LGBTQIA+. C'est une explosion des codes de la société un peu contre nous. Mais dans cette phrase, il y a un morceau qui est hyper important, qui est explosion des codes. Et ça, c'est universel. C'est-à-dire que mes parents, mes sœurs, mes voisins, tout le monde a un sentiment de code étriqué à un moment donné de sa vie, que ce soit dans la réussite professionnelle, physique, financière, amoureuse, que tu veux. Cette sensation de subir des codes qui te limitent, qui t'envahissent, tout le monde le vit. Donc de voir des gens qui disent « Ah ok, bah, en fait, tu sais quoi? Je vais transformer ça en énorme fête, je vais gagner ma vie avec et ça va être cool. » C'est universel. C'est-à-dire que ouais, la portée de cette énergie-là, elle est universelle.
Et alors du coup, avant d'évoquer la saison 2, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ton parcours. Tu as été auteur sur Canal+ au tout début.
Ouais.
Tu as commencé comme ça.
J'ai commencé comme ça.
Comment c'est arrivé?
Un peu par travail, un peu par magie. En fait, moi, je viens pas du tout de là. Hein. Moi, j'ai grandi dans une pizzeria à Bordeaux, un restaurant familial qui m'a habitué à la diversité du genre humain très tôt. Non, mais en fait, je faisais un métier qui avait rien à voir jusqu'à 27 ans, je dirais. Mais j'avais envie de... Comme beaucoup de gens, hein, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Hein, tu vois, j'avais envie de fun, j'avais envie de sens. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et j'ai eu la chance que ça se passe très vite. Alors, j'ai beaucoup écrit. Je voulais tellement être auteur que j'écrivais tout. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que j'ai inventé des noms pour des plaques de four. J'ai fait les interviews pour le Novotel de Lyon. Enfin, je voulais juste écrire et gagner ma vie en écrivant. Et j'avais pas mal d'amis comme ça autour de moi qui voulaient changer de vie aussi. Et notamment Charlotte Lebon, qui était mannequin et qui voulait dessiner, créer. J'avais un pote qui vendait des vélos, qui voulait faire de la photo. J'avais un pote qui voulait devenir, qui voulait créer une agence de web et tout. Et en fait, on s'est retrouvés tous ensemble, tout ensemble. Et on a créé un magazine, un web magazine. Et un peu comme toi, ce que tu fais, tu vois, où t'invites des gens que t'aimes. Et on s'est fait repérer assez vite, et notamment par Canal. Et notre premier sketch qu'on a écrit de notre vie avec Charlotte, c'est celui de son casting qu'il a fait accéder à la météo du Grand Journal et où on s'est retrouvé à faire des sketchs du jour au lendemain devant 3 millions de personnes, 4 millions de personnes. Donc c'était, ça a commencé très vite, quoi. Et déjà, je n'ai jamais arrêté.
Déjà avec des références queer avec Charlotte Lebon.
Mais absolument. Absolument. C'est... En fait, ça a toujours été là. Et je me rends compte a posteriori que j'ai un peu une patte, je dirais. C'est-à-dire que j'aime bien, en fait, que ce soit Catherine Liliane ou les shows de Jean-Paul Gaultier ou même la météo à ce moment-là, c'est des choses qui plaisent autant... peut-être à toi, tu vois, à mes amis hyper proches avec qui on va dans des lieux queer, qu'à mes parents à Bordeaux. Et on m'en parlait autant au Rosa Bonheur qu'à des mariages à Royan. Et ça, je pense que c'est rare. Et c'est exactement comme ça que j'ai pensé Drag Race. Enfin, que j'ai voulu et rêvé Drag Race, en tout cas.
Et ensuite, tu passes chez Catherine et Liliane. Comment ça s'est passé?
En fait, moi, je connaissais Alex et Bruno d'avant. Surtout Bruno. En fait, quand on faisait la météo avec Charlotte Lebon, il était souvent là parce que alors moi je suis très mauvais comédien, c'est-à-dire que moi dès qu'il y a 10 personnes en même temps qui me regardent, j'ai envie de crever. Donc je peux te dire, autant te dire que dans des moments où je me retrouve habillé en insecte devant les Black Eyed Peas, je me dis oh, il nous faut quelqu'un d'autre, je pense. Moi, puis surtout, je les écris les sketchs, donc je suis pas dans un lâcher prise total. Tu vois, c'est-à-dire que quand on joue le truc, je suis un peu dans l'observation de comment ça se passe aussi. Donc on a fait beaucoup de sketchs avec Bruno et évidemment coup de cœur absolu de Canal sur cette personne. Comment ça pourrait être autrement? Et avec Alex aussi, ils ont dit il faut absolument faire quelque chose et ils ont proposé Catherine et Liliane qui existait sur France 2 à la base d'ailleurs.
Ah bon?
Exactement. C'était sur France 2 à la base. Et puis c'est arrivé ils sont venus avec ces personnages. Sur un canal et c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Et le jour où ils m'ont appelé, parce qu'au début j'étais pas dispo, et quand ils m'ont appelé pour le faire, j'étais vraiment genre tu vois les stars à domicile, tu vois, quand il y a Jennifer qui rentre dans la chambre d'une gamine de 8 ans, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression
ils sont rentrés dans ta chambre.
Ils sont rentrés dans ma chambre. non mais c'était vraiment le coup de fil, genre pardon, j'étais trop content et j'ai écrit pendant 6 saisons et je suis complètement schizo sur cette émission. C'est-à-dire que je l'écris, mais en même temps, je suis fan.
Ah, c'est marrant.
Je la regarde, quoi. Je la regarde et je la regarde très souvent parce que ça me fait mourir de rire.
En plus, j'imagine qu'en tant qu'écriture, tu n'avais pas de temps. Enfin, tu avais peu de temps quand même. Si.
C'était plus agréable que la météo. C'est-à-dire que la météo, c'était une vraie quotidienne en écriture et en diffusion. C'est-à-dire que c'était en live tous les soirs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai plus jamais fait derrière parce que franchement, c'est horrible. Non, Catherine Liane, on tournait en hebdo pour une diffusion quotidienne.
D'accord.
Donc, c'était un gros rythme, mais. Ça a laissé le plus de temps à une qualité d'écriture, en tout cas. Et pour le coup, vraiment, c'est l'alignement parfait de ce que je suis, quoi. C'est-à-dire que prendre une vision de la société, des émotions que je ressens, j'y ai raconté mes combats queer comme ma peur de l'avion, quoi. Et j'ai tout mis là-dedans. Et c'était génial. Et du coup, tout cet humour-là, Jean-Paul Gaultier l'a vu et l'a accueilli et m'a proposé de collaborer avec lui. Enfin, c'est... Merci pour d'avoir gagné un concours.
Merci pour cette transition. Justement, j'allais parler du Freak Show Jean-Paul Gaultier, savoir comment ça s'était passé.
Mais folie totale, folie totale. Ça ne fait aucun sens. J'ai l'impression que mes rêves d'enfant sont devenus réalité. Après, je me sens très, très proche. C'est très bizarre de le dire comme ça, mais je me sens très proche de Jean-Paul Gaultier sur plein de choses. Et alors, tout le monde l'aime. Hein. Il y a un consensus absolu. Et alors, je vais vous dire, breaking news, il est encore mieux en vrai. C'est ouf. C'est-à-dire que tout ce que vous pensez de lui, en vrai, il est encore mieux. Je ne sais même pas comment c'est possible, tu vois. Il a une qualité d'écoute, une générosité, une créativité qui, moi, m'inspire et m'a même rassuré sur le fait de vieillir. Enfin, j'en avais pas peur, mais c'est mon premier vrai modèle queer de 70 ans.
Et il a 70 ans.
Oui, il a 70 ans. Et pardon, Jean-Paul, si t'écoutes. et du coup, je me dis, attends, à 70 ans, on peut être cette personne-là. C'est hyper inspirant. On peut être encore vivant. Et encore plus excité à 70 ans parce qu'il y a devant que parce qu'il y a derrière, tout en étant toujours militant, toujours à jour. Enfin, je l'âne d'amour, Jean-Paul Gaultier. Et il faut quand même savoir que ma collab avec lui est née sur le plateau du Grand Journal, où quand même, j'ai un peu honte, mais en gros, Charlotte Lebon est arrivée en Anna Wintour, et à un moment donné, on met un bruit de paix. Ça, en général, c'était les jours où on n'avait pas trop d'idées. Et elle met un bruit de paix, elle regarde Jean-Paul, elle fait « Tu as raison, Jean-Paul, ne t'excuse pas. » Et il a explosé de rire. Et il est venu nous voir après, mort de rire, en disant « Je veux faire des choses avec vous. »
C'est vrai, ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé vraiment comme ça. Et il a vu ça, il nous a demandé de présenter son défilé de mode, de haute couture. Il n'y a quand même que Jean-Paul Gaultier pour faire ça.
Et donc toi, tu as Jean-Paul Gaultier qui arrive, qui te dit ça, mais t'es comment face à lui?
Ah, mais je ne sais même pas. En fait, c'est très bizarre parce que je me sens bizarre après. C'est-à-dire que sur le coup, je prends l'info, je sais pas, je dois être en auto-hypnose ou je sais pas, mais ça me semble tellement... En fait, c'est tellement surréaliste que... Par exemple, tu vois, il y a un truc que j'ai toujours pas intégré. Moi, je suis un fan. Alors attention, énorme surprise, tout le monde va tomber des nues, mais je suis un immense fan de Madonna. Voilà. Non, mais genre, j'allais à la Fnac de Bordeaux récupérer la PLV de Music et tout. Enfin, vraiment, tout ce que tu peux imaginer. Tous les clichés que vous avez en tête, vous y êtes. On y est, c'est exactement ça. Mais, et là, je me retrouve avec Madonna à côté de moi au show de Jean-Paul Gaultier qui regarde le show que j'ai écrit avec Jean-Paul. Quoi. Et en fait, je pense que l'info, elle est tellement grande qu'en fait, c'est pas qu'il se passe rien, c'est juste que c'est pas possible de réaliser, je crois, ces choses-là. Donc,
tu m'étonnes.
Je crois que j'ai toujours... et comme Jean-Paul, je pense qu'on a cette capacité d'émerveillement qui partira jamais, je crois. Donc,
C'est beau, c'est une qualité. Oh,
c'est super beau.
Quelle chance quand même d'être à côté de Madonna. Je pense que tout le monde va t'envier ici. Moi, le premier.
Bah, non, puis surtout pour un truc que j'ai fait avec elle, quoi. C'est, enfin, avec Jean-Paul. Et tu vois, la première fois que j'ai vu Madonna sur scène, c'était en 2001. Il y avait Jean-Paul Gaultier dans les gradins. J'ai regardé les deux. J'étais ultra fan. Cut, 15 ans après, je me retrouve dans cette situation. Je me sens hyper chanceux, hyper reconnaissant. Et ce qui est génial, c'est que bah, Jean-Paul Gaultier, dans sa générosité permanente, quand je lui parle de Drag Race, il fait tout, il déplace tout pour être l'invité du premier épisode parce qu'il sait, bon déjà parce qu'il en a très envie, parce que c'est un fan d'émission, de télé et de ce show-là, et parce qu'il sait que c'est important, parce qu'il sait que ça va nous aider, parce qu'il savait que moi, de garantir que j'avais Jean-Paul Gaultier, ça allait profondément nous aider, et il a vraiment eu cette générosité-là, comme tous les guests d'ailleurs de la saison 1, et les guests de la saison 2, franchement.
Alors justement, parlons de la saison 2, on n'a toujours rien vu, sauf Meet the Queens.
Bon, c'est pas mal, non, déjà.
C'est bien. Et c'est une nouveauté par rapport aux autres franchises. Il n'y a pas, ça n'existe
si,
pas.
Si, si, complètement. Ah, si. C'est une nouveauté pour nous parce que je pense que, beaucoup le font. Nous, on ne l'avait pas fait l'année dernière. On avait tout mis dans l'émission. Et justement, cette année, on a pu faire plus de choses. Il y a le Mythe de Queens. Paloma, qui aura aussi son débrief. Drama Queens, qui porte bien son nom. Juste après l'émission. Il y a également un documentaire là, sur tout ce qui s'est passé. C'est toujours bien de se faire refaire une petite mise à jour avant de se lancer dans la saison 2. Non, il y a plein de nouveaux contenus.
Alors, nouveauté aussi, une finale en public.
Yes.
Comment ça va se passer ? Est-ce que tu...
Je ne sais pas. Non, on est à fond dessus. Non, c'est super excitant.
Il va y avoir des émeutes.
J'espère qu'il y aura... Soyez safe, surtout protégez-vous les uns et les unes les autres. Mais j'espère qu'il y aura des émeutes et que toutes les rues se demanderont « Mais qu'est-ce qui se passe au Grand Rex ?»
Il y aura des... On va pousser les murs.
Je pense qu'ils penseront qu'il y a un groupe de K-pop sûrement dans le coin. Mais non, on imagine ça pour le moment vraiment comme la grande fête que ça doit être.
Et alors du coup, saison 2, je vois bien que, évidemment, tu ne peux rien dire. Mais comment ça se passe sur une deuxième saison après un succès tel de la saison 1 ? Est-ce que tu as plus de pression ou tu t'es cloisonné en disant pas de pression, on continue comme on a fait
Déjà, j'ai quand même l'expérience de saisons qui se répètent dans ce que j'ai fait avant. Je pense que Catherine et Liliane, ça m'a vachement aidé aussi de renouveler des saisons après des immenses succès. Comme tu dis, moi, j'ai plutôt tendance à me concentrer et pas faire rentrer ces infos-là, qui sont un peu plus grandes que nous, et de pas sanctionner ce qu'on fait par du succès ou un échec, parce que voilà, moi, Drag Race, je le fais avec Nico, on le fait comme on le fait, et que ça passe la nuit, un mardi sur Arte ou un samedi soir en prime sur TF1, ce sera pas le même retentissement, donc... Voilà, j'essaie de dissocier un petit peu les infos.
D'accord.
Non, je pense qu'on a eu envie, pas forcément de grimper l'Himalaya, mais de confirmer ce qu'on est, je pense, je dirais. Mais en l'améliorant et en se permettant des choses qu'on n'avait pas faites en saison 1, parce qu'on a appris aussi sur le tournage de la saison 1, on est plus confiant. On est confiant aussi grâce au public qui a accueilli nos codes et qui, justement, d'abord avait peur de la version française et maintenant hyper fier et friand de sa version française. Tu vois, l'année dernière, avant que ça commence, on me disait beaucoup, j'espère que ce sera aussi bien que les US. Et maintenant, la menace s'est un peu déplacée. On me dit, j'espère que ce sera aussi bien que la saison 1. Donc, du coup, mission accomplie. Mais on a fait des nouveaux trucs assez fous. Moi, je pense que la saison 2, on s'est quand même pas mal défoncé. Et par exemple, il y a des nouveautés. Alors, on a été beaucoup dans la créa. La majorité des mini-défis, c'est de la créa française. Et ça, moi, c'est évidemment à nouveau la partie qui m'excite le plus. Et surtout, cette année, c'est la grande année du Rusicol, l'arrivée du Rusicol, que nous, on a appelé le Musidrag, en français, qui est une masse de travail monumental, donc soyez gentils. Tu vois. Non, en vrai, je pense que c'est mon épisode préféré en plus de la saison. Je trouve ça, il est génial cet épisode. Je devrais pas dire ça, mais voilà. Donc on essaie de faire des choses qui sont quand même, comme je dis, ça reste quand même assez artisanal, sa fabrication. Donc c'est énormément d'énergie et on a essayé de grader. Je pense que c'est réussi. Et les queens aussi, elles ont eu envie de montrer que la saison 2, les queens de la saison 2.
Bah oui, faut okay. Toujours, oui. Et du coup, quand tu crées des nouvelles choses, est-ce que c'est toujours sous aval de WOW ou pas ?
Alors, évidemment qu'on partage toutes les infos avec, ouais. Avec eux, mais c'est vraiment en bonne intelligence et en totale collaboration. Je sais que ça fait un peu langue de bois. Bon, ça ne me ressemble pas trop, mais si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Mm. Mais c'est vrai que World of Wonder, pour le coup, sur l'éditorial et l'artistique, ils ne nous ont jamais, mais jamais, rien repris. C'est-à-dire que je n'ai jamais réécrit une ligne.
Ah, c'est bien.
Parce que World of Wonder... Non, parce qu'ils font confiance aussi aux producteurs nationaux, locaux, tu vois. À un moment donné, notre culture, on la connaît aussi mieux. Et puis, tu sais, on parle d'une émission où ils nous ont laissé toucher leur logo. C'est-à-dire qu'on a quand même foutu une tour Eiffel dans leur logo de base. Il n'y a aucune grosse marque comme ça internationale qui... Enfin, jamais dans The Voice ou dans Avec les Stars, qui sont des licences aussi importantes, tu vois, laisseraient changer leur logo, tu vois. Donc on est quand même avec des gens qui sont hyper excités, au contraire, qu'on vienne créer une version française plutôt qu'une contrefaçon. Tu vois. Donc ils sont très... Au contraire, je crois qu'ils sont assez excités. Je crois qu'ils sont même assez jaloux de nos guests. Parce qu'il y a plein de guests français qui sont hyper connus à l'étranger. Et à chaque fois, ils sont là genre « great !» Donc non, ils aiment beaucoup la version française. Ils nous soutiennent beaucoup.
Alors j'ai une dernière question. C'est-à-dire qu'après le succès de la saison 1, de la tournée 1, il y a la saison 2 qui débute. Il y a une tournée aussi qui se prépare.
Qui commence en septembre au Casino de Paris.
Tu te reposes quand ?
C'est gentil de demander. Je me repose, je pense. Non, j'ai la chance de pouvoir quand même... partir quand j'en ai besoin. Mais c'est vrai que Drag Race, du début du casting à la fin de la tournée, ça prend un an. Donc en fait, si on enchaîne les saisons, ben au final, c'est un an, donc ça veut dire tout le temps. Mais non, en fait, en gros, à partir de la fin de la tournée... Non, j'ai des coproducteurs qui respectent ma santé mentale et physique et qui me permettent quand même de me reposer. Et puis, je ne suis pas tout seul. Il y a quand même des super équipes, même à la tournée. Je suis très, très bien accompagné quand même. D'ailleurs, big up à Gen Z aussi, que je n'ai pas cité. C'est l'équipe de la tournée. Et là, pour le coup, on est vraiment dans de l'artisanat. Je voudrais vraiment parler d'une seconde, juste parce que
bien sûr.
On aurait pu faire ça avec énormément de boîtes de prod. Il y avait plein de gens qui étaient intéressés pour faire la tournée Drag Race. Et on a choisi une structure beaucoup plus à taille humaine et surtout qui partageait les mêmes valeurs que nous. C'est des personnes qui sont engagées, qui ont choisi ce métier justement pour défendre leurs valeurs et défendre des communautés et de la visibilité. Et je me suis dit que c'est exactement ce qu'il fallait pour Drag Race. Et voilà, c'est donc... bisous, Gen Z.
Ouais, il n'y a pas de compromission finalement, que ce soit avec tes producteurs, les diffuseurs. T'es toujours, on voit que c'était important finalement de travailler avec des gens qui mettaient le même sens que toi en fait.
Exactement. C'est pas qu'une émission de télé. C'est une émission de télé, faut pas l'oublier. Mmh. Et c'est un show sur scène, donc c'est quand même des éléments à prendre, mais ce n'est pas que ça. Il faut pas oublier la dimension, le sang de cette émission qui est quand même ultra engagée.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te souhaite ?
On me souhaite que les gens aiment la saison 2 et adhèrent. On me souhaite d'avoir l'opportunité encore de faire plein de projets à la fois fous et plein de sens comme ça. Et de profiter un peu de mes vacances. Et vous, je vous souhaite une très bonne saison. Et vraiment, rassemblez-vous et ouvrez les fenêtres, mettez le son à fond. Prévenez tous les voisins homophobes qu'il y a Drag Race. Mais vraiment, diffusez-le partout. C'est là pour ça.
Beau programme. Merci infiniment.
Merci. Bel été à tout le monde.